Bonjour. Nous voici déjà à la sixième règle. Dans ce voyage à travers les règles de discernement des esprits selon les exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola. Et au huitième épisode de cette série de 16 épisodes, qui est l'adaptation française de la série d'entretiens en anglais, le discernement des esprits, libération des captifs, avec le père Timothy Gallagher. Vous pouvez retrouver les entretiens en anglais sur la chaîne YouTube Discerning Hearts. Sixième règle. La règle d'or de la vie intérieure, la contre-attaque. Quoique nous ne devions jamais changer nos résolutions au temps de la désolation, il est cependant très utile de nous changer courageusement nous-mêmes, je veux dire notre manière d'agir, et de la diriger tout entière contre les attaques de la désolation. Ainsi, il convient de donner plus de temps à la prière, de méditer avec plus d'attention, d'examiner plus sérieusement notre conscience et de nous adonner davantage aux exercices convenables de pénitence. On est toujours en train de parler de désolation et on poursuit l'étude des règles de discernement des esprits incluses dans les exercices spirituels de Saint Ignace. Cet appel à se libérer de la désolation spirituelle que propose cette magnifique spiritualité de l'espérance. La règle 6 traite d'un point fondamental de la vie de la plupart des gens, en particulier ceux qui aiment sincèrement le Seigneur et essayent de se mettre à son service. Souvent, il nous vient des pensées, peut-être pas aussi explicites que ce que je vais dire, mais en tout cas de cette nature. On se dit « Je sais qu'il y a des gens qui vivent une grande joie dans le Seigneur et peut-être que moi aussi, à quelques occasions, j'ai ressenti de cette joie. » Mais ça fait un bon moment que je ne sens plus grand-chose de cette joie au fond de moi. Je continue assurément à aimer le Seigneur, je choisis de lui rester fidèle, je continue à prier, à essayer de le servir dans ma vocation. Et il me semble que c'est ce qu'il me demande. Mais je traîne au fond du cœur une pesanteur dans ma relation avec lui, dans ma prière. J'ai bien sûr l'espoir que dans la vie éternelle, je vivrai cette joie intense dans le Seigneur que d'autres semblent déjà connaître. Mais en attendant, cette lourdeur est bien présente et je dois la supporter parce que c'est sûrement ce qu'il attend de moi. Et nous avançons jour après jour avec cette idée que le Seigneur nous demande d'endurer cette pesanteur, cette désolation, cet abattement. Rien n'est moins vrai. Il est vrai que Dieu s'attend à ce que nous supportions certaines situations de vie. Par exemple, quelqu'un qui pourtant prend sérieusement soin de sa santé peut tomber malade, avoir des problèmes de santé. Ou bien quelqu'un qui est consciencieux dans ses responsabilités familiales ou dans son travail ou dans son engagement à la paroisse peut avoir à faire face à des défis qui lui pèsent lourdement. Il existe un mot dans notre tradition spirituelle pour décrire ces situations, notre croix. Jésus nous prévient dans l'Évangile que la croix fait partie de la vie quotidienne de ses disciples. Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Cependant, la croix portée fidèlement avec Jésus, de la même manière que le Vendredi Saint mène toujours au dimanche de Pâques, la croix fait naître une vie nouvelle en nous ou par notre intermédiaire en d'autres. Parfois, nous nous en rendons compte pendant l'épreuve, mais le plus souvent, c'est seulement après, voire des années après, parce que nous avons porté notre croix fidèlement. Par contre, ce n'est jamais vrai de la désolation spirituelle. L'état de désolation n'est pas une croix. Dieu ne nous demande jamais d'accepter passivement la désolation. Nous sommes toujours appelés à agir contre elle, activement, avec sagesse, avec espérance, en utilisant tous les outils fournis par Saint Ignace pour y résister. Se battre et la rejeter jusqu'à ce que, par la grâce de Dieu, nous la surmontions et que nous brisions son emprise. On peut vraiment dire qu'il s'agit d'une spiritualité de l'espérance. Dans la règle numéro 6, Ignace met à notre disposition quatre outils pour gagner cette bataille. Quoique nous ne devions jamais changer nos résolutions au temps de la désolation, ça c'est la règle numéro 5, il est cependant très utile, pas juste utile, très utile, de nous changer courageusement nous-mêmes, pas nos résolutions. Il précise nous changer courageusement, avec énergie, espoir, confiance dans le Seigneur. Et il continue. Je veux dire changer notre manière d'agir pour la diriger tout entière contre les attaques de la désolation. Voilà les changements à apporter. Pas nos plans et nos engagements dans la prière ou pour une retraite ou dans les activités paroissiales, mais notre manière de faire face à la désolation. Voilà ce que nous devons changer. C'est ce qui va briser le pouvoir de la désolation sur nous. Et Ignace liste 4 moyens. Consacrer plus de temps à la prière, méditer avec plus d'attention, examiner plus sérieusement notre conscience et nous adonner davantage aux exercices de pénitence appropriés. La prière dont il parle ici, le premier moyen, est une prière d'intercession. Il nous faut demander l'aide de Dieu. Cet homme seul dans sa chambre le soir, abattu, il prie d'habitude à la fin de sa journée, mais là, il n'en a aucune envie, la souris de son ordinateur n'est pas loin de sa main, et il y a en lui cette attraction vers des distractions dangereuses du monde qui refait surface dans les moments de désolation. Ce serait si facile d'y succomber. Il se sent faible et démuni. Et la voix de la désolation lui murmure « Tu as déjà cédé à tes faiblesses dans le passé et tu vas encore le faire cette fois. » La première chose qu'Ignace dit, c'est « Dans la désolation, prie. » Si cet homme seul, aux prises avec ses tourments, tout simplement se tournait vers Dieu et demandait son aide, son amour, implorait la grâce et la force du Seigneur Jésus, la sagesse et la lumière de l'Esprit-Saint, l'intercession de la Vierge Marie. Ça peut être une prière très très simple. Seigneur Jésus, j'ai du mal, je suis sur le point de succomber, je suis désemparée, aide-moi, reste avec moi. Est-ce que c'est trop facile? Est-ce qu'on pense le faire quand on tombe dans les ténèbres de la désolation? Nous nous tournons vers ce Dieu qui nous promet, demandez et vous recevrez. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Voilà la première chose à faire. Priez, demandez de l'aide à Dieu. Pour le père Gallagher et tous ceux qui essayent du mieux possible de mettre en pratique ces règles, cette incitation d'Ignace à se tourner immédiatement vers Dieu a pris de plus en plus de sens au fil du temps. Et avec la pratique, le réflexe s'installe de demander de l'aide immédiatement, dès que l'apesanteur de la désolation se fait sentir. Marie, aide-moi. Jésus, reste auprès de moi. Et quelquefois, juste cette prière enlève un peu de poids. Le simple fait de se tourner vers Dieu quand la désolation veut justement nous faire croire que nous sommes loin de lui, et cette petite prière est peut-être d'ailleurs la seule chose que je sois capable de faire parce que je suis trop faible, mais je peux au moins faire ça, dire à Dieu que je n'en peux plus et implorer son aide. Et déjà quelque chose s'allège en moi. Et souvent, une heure ou deux plus tard, les choses auront déjà changé et la désolation se sera peut-être déjà estompée. Et je me souviendrai, j'ai demandé de l'aide et ma prière a été entendue. C'est le premier conseil d'Ignace, la prière d'intercession. Et ce n'est pas par hasard que c'est le premier, car c'est aussi le moyen le plus efficace de lutter contre la désolation. Demander l'aide de celui qui est infiniment puissant et qui nous aime infiniment. Le deuxième outil qu'Ignace nous donne, quand nous sommes au cœur de la noirceur de la désolation, est ce qu'il appelle la méditation. Quand je suis dans la noirceur, seul à ma table de travail le soir, le cœur lourd, sans personne aux alentours, je me remémore les vérités de ma foi qui m'assurent de la présence et de l'amour fidèle de Dieu pour moi, qui me rappellent sa bonté et ses grâces toujours disponibles au cœur même de ma désolation, de façon que je puisse traverser cette période difficile en toute sécurité. Chacun possède ses versets préférés de la parole, qu'il note ou surligne dans la Bible elle-même, ou une phrase de la liturgie des heures, ou une strophe d'un psaume. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi aimons-nous tant le psaume 23 ? Parce qu'il nous donne justement ce genre de méditation dont nous avons besoin au cœur des ténèbres. Au milieu du désespoir de ma désolation, je me remémore que je ne manque de rien, car tu es mon berger, que je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. »
Le père Gallagher raconte qu'une dame lui avait confié qu'elle gardait ce qu'elle appelait son chant anti-désolation. Il s'agissait en fait de quelques vers d'une hymne sur l'amour fidèle de Dieu qu'elle chantait dans ses moments de désolation. Lui-même raconte qu'alors qu'il était en poste à l'extérieur du pays depuis quelques années, il avait été rappelé par ses supérieurs pour prendre la responsabilité des séminaristes en fin de formation en théologie avant la prêtrise. C'était une charge lourde et difficile pour lui. Un nouvel environnement, un réajustement culturel, un nouveau groupe de personnes, un travail pour lequel il ne se sentait ni préparé ni compétent. Et il y avait aussi toutes sortes d'autres facteurs aggravants. C'était une situation pénible qui était en train de devenir insupportable pour lui. Un soir d'hiver, il sortait du métro et avait à peu près 400 mètres à parcourir jusqu'à la maison où sa communauté, les séminaristes et son travail l'attendaient. Il se souvient encore du froid mordant du soir, de la pénombre, de la neige entassée au bord du trottoir et de chaque pas qui le rapprochait de quelque chose que tout son être repoussait. Il se souvient aussi de ces mots murmurés à Dieu au fond de son cœur. « Seigneur, pourquoi cela m'arrive-t-il? Pourquoi dois-je vivre cela? Je fais juste du mieux que je peux. » À ce moment-là, il ne pensait pas à saint Ignace et à la règle numéro 6. Mais par pure grâce, une phrase s'est fait entendre dans son cœur. « Ce n'est pas la première fois. J'ai déjà connu des moments dans ma vie où je me suis senti exactement comme je me sens maintenant. » Et quand je regarde ces situations anciennes, je peux entrevoir quelques-unes des raisons pour lesquelles le Seigneur peut les avoir permises et prendre conscience des bénédictions que j'en ai retirées à les traverser. Cette réalisation n'a pas fait complètement disparaître le poids de la désolation dans laquelle il était. Mais quelque chose s'est allégé en lui et il s'est senti capable de ressentir que, même s'il n'était pas en mesure de le voir maintenant, il pressentait qu'un beau jour, il comprendrait probablement pourquoi le Seigneur le laissait vivre ces temps difficiles. Et cette petite phrase « Ce n'est pas la première fois » est devenue un de ses sujets de méditation dans ces moments de désolation. Et en relisant son journal spirituel, il a été frappé de constater que cette petite phrase revient souvent. En temps de désolation, cette phrase « Ce n'est pas la première fois » lui rappelle qu'il y a une raison à ce qu'il vit, et qu'il a juste à faire de son mieux, et peut-être qu'un jour il comprendra plus clairement pourquoi le Seigneur permet qu'il vive ce temps d'obscurité à ce moment-là. Le père Gallagher cite aussi l'histoire de cette religieuse septuagénaire, une femme merveilleuse, une sainte, qui, quand elle tombe dans ces moments pesants, se tourne vers Dieu pour lui dire « Seigneur, tu m'as porté fidèlement pendant 55 ans de vie religieuse, et tu ne vas sûrement pas me lâcher dans cette petite difficulté. » Encore un sujet de méditation parfait, se rappeler la fidélité de Dieu dans le passé. Chacun peut ainsi préparer sa propre trousse de premiers soins en cas de désolation, si on peut dire. Son propre attirail de sujets de réflexion, de versets de la Bible, de souvenirs de la fidélité de Dieu dans le passé, qu'il peut consciemment se remémorer et méditer en pleine désolation. C'est le deuxième outil qu'Ignace suggère pour se changer courageusement et combattre vigoureusement la désolation. Le troisième outil consiste à examiner plus sérieusement notre conscience. Pourquoi cette invitation à un examen de conscience plus sérieux en plein milieu d'un temps de désolation? Parce que la réaction spontanée, irraisonnée, sans discernement, à ces moments de désolation spirituelle, c'est la fuite dans quelque chose qui paraît immédiatement gratifiant. Je me sens si misérable que j'ai juste envie de m'écraser devant la télévision. Et quand je me lève 2 heures après, est-ce que je me sens mieux? Les symptômes sont toujours là, la désolation est toujours là, et peut-être même un peu plus lourde, parce que quelque chose en moi sait que j'ai cédé à un dérivatif que je savais inefficace. Il s'agit de ces moments où on se précipite vers le réfrigérateur, où on commence à se promener sur Internet, où on est tenté de faire des choses qui ne sont pas bonnes pour nous, qui ne nous aident certainement pas. C'est ce qui se passe si on réagit de façon irraisonnée et sans discernement dans ces moments de désolation. Ignace recommande de faire le contraire. S'arrêter, observer et examiner la situation. Et le plus souvent, nous sommes capables de repérer quand tout a commencé.
Maintenant que j'y pense, tout allait bien ce matin. J'ai eu un temps de prière très riche avec les textes de la liturgie et j'étais très présente à la messe. Je ressentais une joie profonde. Tout a commencé en milieu d'après-midi quand j'ai reçu ce courriel avec ce problème que je vais devoir affronter et qui m'affecte énormément. Ou ce commentaire que cette personne a fait au travail ou à la maison. C'est à ce moment-là que ça a commencé à mal tourner. Si tout est noir, si je ressens que je suis loin de Dieu, que tout est en train de s'écrouler, je suis submergée et je ne sais pas comment faire face. Mais si c'est un état d'âme qui a commencé quand quelqu'un a fait une remarque, je peux faire face. Je peux préparer un plan d'action bien concret pour essayer de régler ou au moins d'améliorer la situation. Le père Gallagher, lui, a développé une habitude. Quand il sent que sa vie spirituelle n'est pas à son meilleur, dès qu'il le peut, le plus vite possible, il s'isole quelques minutes, ne serait-ce que quelques instants, seul dans un bureau vide entre deux réunions. Il ferme la porte, s'assied et demande au Seigneur de l'aider à comprendre ce qui se passe. C'est précieux quand on entrevoit le problème. Voilà ce qui me dérange. Voilà comment tout a commencé. Les choses se clarifient encore plus un peu plus tard, mais déjà le sentiment que tout est noir, que tout va mal, commence à perdre du terrain. Et quand il a identifié le déclencheur, il peut commencer à s'en occuper, à prendre des mesures positives pour y remédier. Il raconte le témoignage d'une femme, mère de famille, infirmière, une personne débordée. Quand quelque chose lui pèse, la trouble, au milieu de ses journées extrêmement occupées à l'hôpital, elle met le problème de côté et c'est dans le train qui la ramène à la maison, en fin de journée, qu'elle prend le temps d'examiner la situation. C'est de cela dont parle Ignace, de cette habitude de prendre le temps d'examiner la situation dès que la désolation spirituelle se fait sentir. Prenons un autre exemple. Celui de Raymond, un homme très pieux. Il prend le train chaque jour pour aller à son travail. D'habitude, il profite du trajet du matin pour prier avec les Écritures. Mais aujourd'hui, il n'en a pas envie. Il est distrait. Il n'arrive pas à se concentrer sur sa prière. Il arrive au bureau. Normalement, c'est une personne de bonne humeur, patient avec les autres. Et plus il se rapproche de Dieu, plus cela lui vient naturellement. Et ses collègues se rendent bien compte, non pas que sa foi grandit, mais que son humeur est de plus en plus détendue et sereine. Et tout le monde apprécie sa présence. Mais aujourd'hui, il est bizarre, impatient, pressé de finir sa journée. Arrive la pause de midi. Normalement, à ce moment-là, il prend quelques minutes pour prier. Mais aujourd'hui, le corps lourd, sans envie, loin de Dieu, il ne le fait pas. Au passage, vous remarquerez que c'est un cas typique de la règle numéro 5. Au temps de la désolation, ne faire aucun changement dans ses résolutions et dans la détermination où l'on était avant la désolation. Il n'a pas envie d'aller manger avec ses collègues, comme il aime le faire d'habitude. Il est tenté d'aller manger à l'extérieur du bureau, alors qu'il sait bien que cela ne lui réussit pas. Il est sur le point de sortir, mais soudain, ça fait tilt dans son esprit. Il prend conscience que quelque chose ne va pas. Il réalise qu'il doit prendre le temps d'examiner ce qui se passe. Vous vous souvenez des trois étapes du discernement : prendre conscience, comprendre, agir. Il vient de franchir la première, il vient de prendre conscience que quelque chose ne va pas, même s'il ne sait pas encore quoi. Il s'arrête, retourne à son bureau, s'assied et demande au Seigneur son aide et commence à examiner ce qui se passe : son incapacité à prier dans le train, son impatience au bureau, l'omission de sa prière du midi, son envie de sortir du bureau, deviennent des indicateurs que quelque chose ne tourne pas rond. Comment est-ce que ça a commencé? Il repense au début de sa journée et il se rappelle que juste alors qu'il quittait la maison ce matin, son petit garçon a essayé d'attirer son attention, mais qu'il était déjà en retard et pressé et qu'il l'a ignoré. Il a lu la peine dans le regard de sa femme et la déception de son fils, mais il était trop préoccupé pour y porter vraiment attention. Voilà comment tout a commencé, il le réalise maintenant. C'est depuis ce moment-là qu'il se sent mal, qu'il est distrait de ses prières. C'est la deuxième étape du discernement, comprendre. Voilà pourquoi Ignace nous encourage à intensifier notre examen de conscience en temps de désolation, pour y résister. Et maintenant qu'il a compris, il sait quoi faire. Il prend le téléphone, appelle sa femme et il s'excuse. Il lui dit qu'il est désolé de ce qui s'est passé ce matin et qu'il va se rattraper ce soir avec son fils. Il entend dans la voix de sa femme combien elle est reconnaissante de cet appel. Et son cœur s'allège instantanément. Et il prend les quelques instants habituels de prière. S'il nous arrive à nous aussi de faire des changements en temps de désolation, il n'est pas trop tard pour se reprendre. L'histoire n'est pas finie. Il est toujours possible de les renverser. La rédemption est toujours disponible. Quant à Raymond, après son temps de prière, il a rejoint ses collègues pour manger avec sa bonne humeur habituelle. C'est à ça que Saint Ignace veut nous amener avec la règle numéro 6, en nous engageant à approfondir notre examen de conscience en temps de désolation spirituelle. Relisons encore une fois cette règle. Quoique nous ne devions jamais changer nos résolutions au temps de la désolation, il est cependant très utile de nous changer courageusement nous-mêmes, je veux dire notre manière d'agir, et de la diriger tout entière contre les attaques de la désolation. Ainsi, il convient de donner plus de temps à la prière, de méditer avec plus d'attention, d'examiner plus sérieusement notre conscience et de nous adonner davantage aux exercices convenables de pénitence. Ignace donne un quatrième outil, nous adonner davantage aux exercices convenables, il insiste, pas n'importe lesquels, de pénitence. Le père Gallagher propose de tourner la phrase un petit peu différemment. Ignace nous invite à des gestes de pénitence courageux et appropriés. Quoi nous encourage-t-il à des gestes de pénitence courageux et appropriés en plein milieu d'un moment de désolation? Parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, la réaction spontanée, non réfléchie à la désolation, c'est la fuite dans les échappatoires gratifiants, la souris de l'ordinateur, la télécommande de la télévision, le réfrigérateur, etc. Et on sait tous que cette fuite dans des gratifications immédiates non seulement n'aide pas, mais même empire les choses. Alors Ignace dit « Non ». Tenez bon et faites de petits gestes de pénitence appropriés avec courage. C'est-à-dire faites exactement le contraire de ce que la désolation vous pousse à faire. Et soyons clairs, ces gestes peuvent être très très petits, cela n'a pas d'importance. L'important c'est de les faire. Un petit pas avec l'esprit dans la bonne direction et l'esprit nous conduira au suivant et ainsi de suite. Si le mieux que je puisse faire avant de me diriger vers le réfrigérateur, c'est d'attendre 10 minutes, je le fais, j'attends 10 minutes. Dieu peut faire de grandes choses en 10 minutes. Si le mieux que je puisse faire est d'attendre 15 minutes avant de commencer à me promener sur Internet, je le fais, j'attends 15 minutes. Dieu peut faire beaucoup en 15 minutes. Si le mieux que je puisse faire est de sourire à la dernière personne à qui je veux sourire, je le fais. Ou rendre service à quelqu'un alors que je n'en ai aucune envie, je le fais. Dans les exercices spirituels, Saint Ignace explique bien ce qu'il faut faire. Disons qu'on veut prier pendant 1 heure. C'est facile à faire en temps de consolation, le temps passe vite. Mais en désolation, 7 heures paraît une éternité. On jette un œil à sa montre et ça ne fait que 15 minutes. Et c'est la 3e fois qu'on vérifie l'heure. On connaît tous ça. Et Ignace dit, dans ces moments-là, non seulement on ne raccourcit pas notre temps de prière et on va fidèlement jusqu'au bout, mais au contraire, pour battre à plate couture l'ennemi, on l'allonge un petit peu, pas 1 demi-heure de plus, mais 1 minute de plus, 5 minutes de plus. C'est ça, les petits gestes de pénitence courageux et appropriés. Au lieu de céder à la désolation, on tient bon avec des gestes courageux de pénitence, petit mais très efficace. Et on verra avec le temps qu'ils font toute la différence. Que se passera-t-il si dans les moments de désolation je me tourne vers Dieu en prière pour lui demander son aide? Je me remémore les vérités profondes de ma foi, je me rappelle mes expériences passées de la fidélité de l'amour de Dieu, je récite des versets qui me réconfortent et je médite les promesses du Seigneur. Si je m'assieds et que je prends le temps d'examiner avec Dieu ce qui m'arrive, comme cet homme dans son bureau, jusqu'à ce que je comprenne mieux ce qui se passe en moi. Et si au lieu de fuir dans des gratifications immédiates, je tiens bon, avec de petits gestes courageux et appropriés de pénitence, que se passera-t-il? Eh bien, avec la grâce de Dieu, cette désolation ne va pas s'éterniser. Mais au contraire, elle va s'alléger et passer plus rapidement parce que j'aurai utilisé tous les moyens efficaces pour y résister. C'est l'invitation de la règle numéro 6 à nous changer nous-mêmes courageusement contre la désolation, parce que c'est la manière la plus efficace de lutter et de s'en libérer.